Pendant que le pain et le vin circulaient, j'étais en train de penser à Néhémie qui avait fait le tour des murailles de Jérusalem et qui avait longuement médité sur ces murailles qui étaient consumées par le feu et la ruine de la ville et le travail qu'il avait à faire. Et je pensais à notre Seigneur. Je pensais que lui aussi, quelque part, il avait dû longuement réfléchir et regarder ce monde en ruine, et qu'il avait décidé de quitter sa haute fonction, un peu comme Néhémie, mais beaucoup plus sa fonction était celle de Dieu. Il avait la position même de Dieu. Il était assis sur un trône élevé dès le commencement. Il n'a pas cessé d'être Dieu quand il s'est incarné, mais il a quitté une position pour en prendre une autre. Il a pris la position du serviteur et il est venu pour nous reconstruire. Je pensais à Néhémie, je pensais au Seigneur. Cette descente pour venir nous reconstruire, après avoir probablement regardé et s'être laissé toucher le cœur par l'état du monde. Et ce qu'il y a de plus merveilleux encore avec Jésus-Christ, et c'est là que j'ai le vertige, c'est que tout ça se passait certainement avant la fondation du monde, avant même que ça arrive. Vous voulez vraiment vous passer les salutations du Centre évangélique protestant de Marseille et Saint-Loup, une église donc de la même nature que la vôtre, qui se réunit à 10h30 le matin, dans un quartier de Marseille, et qui voilà, m'a demandé de vous passer les salutations. Eux aussi, ils chantent pour le même Seigneur, et ce matin, je me suis senti vraiment, vraiment à la maison. Je voulais aussi renouveler mes vœux pour l'année 2012. Pour vous, en tant qu'Église, c'est un privilège quand on est orateur de pouvoir le faire. Je l'ai fait hier soir, mais vous êtes plus nombreux ce matin. Et pour toutes celles et ceux qui n'étaient pas là hier soir, je voudrais vraiment renouveler les vœux de plus grandes bénédictions qui soient, c'est-à-dire les bénédictions qui sont en Christ. Que le Seigneur, cette année, il vous dirige, qu'il soit votre aide, comme il a dit le frère, qu'il nous construise en tant qu'individu, mais qu'il nous construise aussi en tant que communauté, et qu'il bénisse votre Église et le témoignage que vous avez dans cette ville. Et si parmi vous, il y a des personnes qui sont en train de réfléchir à l'œuvre de Jésus-Christ, et bien que le Seigneur vous éclaire pleinement cette année, que 2012, ça soit l'année clé de votre vie, celle qui change tout. Hier matin, il y avait un ami qui me téléphonait pour me dire, il y a un ami qui est venu à des groupes découvertes et qui vient de prier pour reconnaître que Jésus était son Seigneur. Et je sais que ce jeune homme, hier matin, il a fait la plus belle décision, la plus grande décision qu'il pouvait faire, de reconnaître en Jésus celui qu'il pouvait vraiment se confier et lui donner sa vie pour que Jésus la reconstruise. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis, je voulais aussi remercier le groupe de louanges ce matin, parce que c'est un petit peu comme chez nous. Vous nous avez vraiment bien dirigés dans la louange, sans vous imposer. Vous avez vraiment la louange à cœur, et ça nous a aidés à chanter le Seigneur. Vous avez fait des tierces, des arrangements qui nous ont poussés à élever nos cœurs. Et même nous qui ne savons pas chanter, eh bien ce matin, on était capables de chanter le Seigneur tous ensemble. Et ça, c'était vraiment super. Un grand merci pour le groupe de louange. C'est un ministère extraordinaire de savoir diriger la louange sans s'imposer. Et vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, on est tous très sensibles à cela. Alors, je voudrais maintenant ouvrir le livre de Néhémie avec vous pour la troisième fois. Vous rappelez le titre qui avait été choisi pour notre week-end, Quand l'Éternel console, de la ruine à la louange. Bien pourquoi Quand l'Éternel console? Parce que je rappelle donc que Néhémie veut dire l'Éternel a consolé. Et puis Néhémie a eu le ministère de reconstruire les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Et donc quand il est arrivé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les murailles étaient en ruine, c'était en l'an 445 avant Jésus-Christ. Et puis, à l'issue de son ministère, les murailles de Jérusalem ont été reconstruites. Et le jour où les murailles de Jérusalem ont été reconstruites, les Israélites ont fait une grande fête. Ils ont eu deux groupes de louanges qui ont parcouru les murailles, qui se sont réunis quelque part pour chanter le Seigneur, comme Stéphane nous l'a partagé ce matin, un petit aperçu sur cette louange qui a eu lieu sur les murailles de Jérusalem reconstruites. Et donc, effectivement, ce livre commence dans la ruine, dans la poussière, dans la précarité, dans le désarroi. Et vous avez cette apogée dans le livre où vous avez les sacrificateurs en tenue de fête et tout le peuple qui chante parce que les murailles ont été reconstruites et le bruit des Israélites a été entendu au loin. Quelle fête ça a dû être ! Les nations autour ont entendu, les amis comme les ennemis, tout le monde a entendu que les murailles de Jérusalem étaient reconstruites. Ça a terminé donc par un grand moment de louange. Et donc je pense que de la ruine à la louange est très significatif et représente bien l'œuvre que Dieu a développée au travers du ministère de Néhémie. Voilà quelques passages qui parlent justement de ce moment de louange. Stéphane, tout à l'heure, quand tu as ouvert Néhémie, que tu as parlé des passages, j'ai un petit peu tremblé, je me suis dit « Ah, est-ce qu'il va parler de la même chose que moi ce matin ?» C'est ça qui est génial. Hein, c'est qu'en en fait, on a vraiment tous le même Dieu. Et c'est cette parole de Dieu aussi qui est quelque part très fédératrice, qui nous rassemble. Alors effectivement, voilà deux versets qui parlent de cette louange qui a eu lieu sur les murailles de Jérusalem quand elles ont été reconstruites. Néhémie chapitre 12, verset 27. Vous pouvez le lire dans vos Bibles. Je l'ai aussi projeté sur l'écran. Lorsqu'on eut fini de rebâtir la muraille de Jérusalem, on fit venir les Lévites de tous les endroits où ils habitaient pour célébrer à Jérusalem une joyeuse fête de dédicace, avec des chants de louanges accompagnés par des cymbales, des harpes et des lyres. Vous imaginez ce que ça a dû être, ce moment de louange avec la musique, les instruments de l'époque. Aujourd'hui, on en a d'autres, hein. Mais s'ils avaient vécu à notre époque, ils auraient pris probablement des guitares électriques, des basses, des batteries. Et voilà, et ils ont loué le Seigneur avec les instruments qui étaient les leurs à l'époque. Et ils ont élevé leur voix et ils ont chanté. Au verset 43, on lit « Ce jour-là, on offrit de nombreux sacrifices dans une ambiance de fête. Dieu avait en effet rempli son peuple d'une grande joie. À Jérusalem, les femmes et les enfants étaient si heureux que le bruit des réjouissances s'entendait au loin. » Le peuple a été vraiment dans la joie, comme je le disais, et les réjouissances se sont entendues au loin. Je crois que c'est qui caractérise vraiment le peuple chrétien, le peuple de Dieu, c'est cette faculté de se réjouir de ce que le Seigneur a fait. Et lorsque je dis cette faculté de se réjouir et de louer le Seigneur, je ne parle pas nécessairement à des hommes et des femmes pour qui tout va bien. Nous pouvons avoir des épreuves, nous pouvons avoir des tristesses dans nos vies, et pourtant cette joie ne nous quitte pas. Cette joie, c'est la joie que le Seigneur nous a donnée, et c'est aussi quelque part parce qu'on est conscient que le Seigneur a commencé une œuvre en nous à la croix et qu'il va l'accomplir. Hier, on a vu que l'œuvre de reconstruction du Seigneur commence à la croix. C'est là que le Seigneur a commencé de nous reconstruire. Lorsqu'on a réalisé quel sacrifice a été offert pour nous à la croix, le sacrifice qui nous obtient le pardon des péchés, la justification, c'est grâce à ce sacrifice et à la résurrection du Seigneur que nous avons obtenu le signe de l'Alliance nouvelle qui n'est rien d'autre que l'Esprit Saint lui-même déversé dans nos cœurs à la conversion. Le privilège de faire partie d'une famille immense, combien sommes-nous ce matin ? C'est une grande famille, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres églises qui se réunissent à Grenoble et pas que à Grenoble, dans les villes autour, alentour et même à Marseille, vous vous rendez compte ? Vous avez même des bouts de votre famille là-bas. Vous avez été placés, nous avons été placés dans une famille immense et toutes ces choses-là ont commencé à la croix. Et le Seigneur nous reconstruit en vue d'un événement qui est à venir. L'événement du peuple de Dieu que nous attendons tous, c'est le retour du Seigneur. Comme Jérusalem avait été reconstruite autour de l'autel et puis avec une vision globale de la prophétie, nous savons que Dieu avait résolu de reconstruire Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi, la ville où le Seigneur Jésus-Christ lui-même devait faire son entrée. Le temple lui-même où il allait faire entendre sa voix, un temple qu'il a à un moment donné purifié d'ailleurs pendant son ministère terrestre. Et de même, nous, dans la reconstruction du Seigneur a commencé à la croix, nous attendons et nous sommes reconstruits de gloire en gloire jusqu'à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur revient, est-ce que vous le croyez ? C'est un événement historique. Comme la croix et la résurrection sont des événements historiques du passé, le retour du Seigneur est un événement historique qui aura lieu dans l'agenda de Dieu. Selon ma manière de voir les choses, je pense que ce moment peut arriver à n'importe quand. C'est-à-dire que nous devons, d'après ce que je crois comprendre, nous tenir perpétuellement prêts et vivre notre vie en vue de cet événement, aligner toutes nos décisions, notre éthique, notre mode de vie en fonction de cet événement qui est le retour du Seigneur. Là où nous le verrons face à face, je ne sais pas comment vous allez vivre ce moment, j'ai souvent réfléchi à ce moment où j'allais voir le Seigneur qui m'a sauvé, face à face. Je ne sais pas encore comment je réagirai, si je me jetterai à ses pieds, je ne sais pas si ça sera permis, peut-être on va manger ensemble. La Bible dit très peu, elle parle d'un grand banquet, j'ai de la peine à vraiment comprendre et réaliser tout ce qui va se passer. Peut-être parce que le Seigneur connaît mes limites, il a décidé de m'en dire très peu dans la Bible, mais suffisamment pour que je puisse me réjouir. C'est ça la louange, c'est ça la joie du peuple de Dieu. Et cette louange ce matin, ben, j'espère que c'est la nôtre. On peut avoir des épreuves, mais nous sommes reconstruits de gloire en gloire et nous allons rencontrer le roi. Voilà ce que, dans une certaine mesure, ces Israélites ont vécu lors de la reconstruction d'une muraille, la muraille de Jérusalem. Et je me suis posé la question, parmi ces Israélites, il devait vraiment y en avoir des très très joyeux pour que le bruit se fasse entendre au loin. Et je me suis posé la question, peut-être c'est une question qui est particulière, je ne sais pas, quels devaient être les Israélites les plus joyeux ce jour-là? Qui sont celles et ceux qui ont fait la plus grande fête? Je me suis interrogé là-dessus. Et j'ai pensé peut-être, que celles et ceux qui avaient fait la plus grande fête ce jour-là étaient celles et ceux dont on parle dans un autre chapitre du livre de Néhémie. Alors j'ai feuilleté un petit peu le livre et je suis arrivé à ce moment du livre de Néhémie où on voit les Israélites qui sont en train de construire la muraille. Ils s'y mettent tous, ils sont tous au travail et j'ai cherché dans ce chapitre quel pouvait être le verset clé, vous savez, le verset où les Israélites vont reconstruire la muraille. Et j'ai trouvé peut-être ce verset-là. Éliashib, alors je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre de Néhémie. C'est un peu compliqué à trouver, c'est après les chroniques, c'est après le livre d'Esdras, dans la période de la Bible qui s'appelle donc la Restauration. Et là, nous sommes au chapitre 3. Ça va ? Voilà. Alors, je me suis posé la question. C'était le moment où ils ont reconstruit la muraille et j'ai cherché dans ce chapitre 3 le verset clé. Alors voilà, je vais le lire. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en fixèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté de lui bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zaccour, fils d'Imri. Attendez, c'est peut-être pas le verset clé. Probablement celui-là. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabéel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. Je me demande si c'est le verset clé, excusez-moi. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Tiens donc. Yoyada, fils de Paséa, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte, ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Attendez. À côté d'eux travaillèrent Melatia, le Gabaonite, Yadon, ils ont des noms, tu as raison Stéphane, un peu difficile, hein, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de la province de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Araya, d'entre les orfèvres. Et à côté de lui travailla Anania. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? D'entre les parfumeurs, ils achevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille. Là, j'attendais 30 secondes, je donne un petit coup d'œil sur le contexte général. C'est le chapitre 3. En fait, ça y est, je me souviens maintenant. Le verset clé est caractérisé par le mot « à côté d'eux ». Vous voyez, il y a beaucoup de fois où c'est marqué « à côté d'eux ». Même en regardant ce chapitre 3, je me suis dit, c'est un petit peu comme un générique de film. Vous voyez, à la fin, il y a toujours beaucoup de monde qui a fait un film. Et je me suis dit, c'est un petit peu comme ça, le chapitre 3 de Jérémie. C'est un générique de film avec tous ceux qui ont fait quelque chose. Il les a tous cités « à côté d'eux, à côté d'eux ». Vous l'avez lu en entier, franchement, ce chapitre. Ce qu'il en ressort, c'est qu'ils ont été tous ensemble pour construire cette muraille. C'est évident que, à ce moment-là, l'auteur sacré met l'accent sur le fait qu'ils construisent cette muraille tous ensemble. Alors, il y a les sacrificateurs, des gens qui sont de très hautes conditions. À côté d'eux, il y a des gens qui sont de conditions très humbles. Et je les imagine tous sur ce chantier en train de construire la muraille. Mais qu'est-ce que ça devait être beau à voir ? Et moi, je suis convaincu que c'était les personnes qui ont le plus loué le Seigneur quand la muraille elle a été accomplie, quand elle a été reconstruite. Je suis sûr que c'est eux qui ont le mieux chanté, qui chantaient le plus fort. Les femmes qui ont dû avoir leur mari partir tous les matins au travail et les enfants qui devaient dire au revoir à papa parce qu'il allait travailler à la muraille. Qu'est-ce qu'ils devaient être contents que la muraille ait été rebâtie ? Vous imaginez la joie ? La joie ! Et ces sacrificateurs qui étaient en vêtements de travail, qui ont mis leurs vêtements de fête et qui ont quitter leur truelle pour prendre les instruments de musique et louer le Seigneur ensemble. Qu'est-ce que ça devait être beau ! Mais je suis sûr que la clé, elle est là, au chapitre 3, quand ils travaillaient tous ensemble. Je crois que si cette reconstruction dont nous parle le livre de Néhémie, hier soir, je développais cette pensée, que cette reconstruction s'appelle, dans la vie chrétienne, cette reconstruction qui commence à la croix. Hier, les parallèles ont été faits au niveau théologique entre la croix, l'autel, et puis l'arrivée du grand roi dans la ville, et puis le retour du Seigneur. Si cette reconstruction commence pour nous à la croix et sera achevée lorsque nous rencontrerons le Seigneur face à face, si cette reconstruction a un nom et qu'elle s'appelle le principe de sanctification, où nous sommes sanctifiés, ou si vous préférez, mis à part, de gloire en gloire jusqu'à la rencontre du roi, si vous êtes d'accord que vous êtes dans un principe de sanctification progressive, comme moi, parce que vous avez peut-être noté que je ne suis pas parfait et que j'ai encore beaucoup à apprendre, si vous et moi, nous cheminons ensemble pour nous préparer à ce jour où nous allons rencontrer le Seigneur, alors je pense que ce chapitre 3 nous indique quelque chose sur le principe de sanctification progressive. Ce principe de sanctification progressive ne doit pas et ne peut pas être vécu seul, à côté de côte à côte, dit le texte original. Côte à côte, ils ont travaillé côte à côte, ils ont construit côte à côte, à côté les uns des autres. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne tout seul. Et le Seigneur nous reconstruit, mais il ne nous reconstruit pas seul. Il nous reconstruit ensemble. Et dans cette expérience, aventure extraordinaire qu'est la vie chrétienne, nous allons souvent nous retrouver côte à côte. Il n'y a pas de place pour les ermites dans la vie chrétienne. Jean le Baptiste était peut-être un prophète du désert. Jésus a toujours été entouré de plein de gens. Ses disciples, la même chose. Ce matin, mais c'est caractéristique de la vie chrétienne, nous sommes un peuple, nous sommes une foule et nous sommes construits côte à côte. C'est une dimension de la sanctification qui est absolument essentielle. Nous avons une conception de la sanctification qui est communautaire dans le Nouveau Testament. Quel film, quel script, hein ? Vous imaginez qu'il y a votre nom là-dedans ? Je l'ai écrit petit exprès pour que vous puissiez imaginer. Alors voilà, ils ont construit les murailles côte à côte. Ils ont construit les murailles ensemble. Et c'est exactement ce que le Seigneur, il attend de nous. Que nous soyons construits ensemble et que nous construisions ensemble. Parce qu'il y a des choses, comme on a vu hier, il y a des choses à faire. Et il y a des choses à faire ensemble. Alors allons-y. C'est aussi simple que ça, non ? Tous ensemble. Let's go. Non? Ben oui. Amen. C'est pas toujours facile, hein? Non? C'est là la difficulté de la vie chrétienne. Des fois, c'est que c'est pas facile de construire tous ensemble. Pourquoi est-ce que c'est des fois si difficile? Je me pose la question, pourquoi c'est tellement difficile quelquefois d'être côte à côte? Alors que c'est là où le Seigneur nous veut. Je vais vous donner un élément de réflexion intéressant qui va un petit peu plus loin de la pensée. Nous ne sommes pas parfaits, quelquefois il y a des frictions, etc. Oui, ça on le sait. Hein, mais on s'adapte, l'Église c'est l'école de l'amour, c'est là où on apprend à se pardonner, etc. Et pourtant, malgré qu'on sache tout ça, des fois c'est quand même difficile d'être côte à côte et d'être vraiment ensemble et de penser la vie chrétienne d'une manière communautaire. Pourquoi? Pourquoi? Le docteur Harold Turner, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme, qui est pourtant bien connu comme étudiant et interprète des nouveaux mouvements religieux dans les sociétés primitives, dit qu'il y a plusieurs manières de comprendre le monde. Et dans les manières qu'il montre de compréhension du monde, il cite au moins deux manières de comprendre le monde. Et il dit que certaines personnes, dans certaines sociétés, comprennent le monde de cette façon-là. Est-ce que vous connaissez ça? Ça vous rappelle les cours de physique? C'est quoi? C'est un atome. Tout à fait. Un atome. Vous savez ce que le mot atome veut dire en grec? Alors, normalement, si vous avez écouté le prof de physique, vous devriez savoir. Qu'est-ce que vous faisiez en classe de physique? Vous étiez près du radiateur ou en train de regarder par la fenêtre. Ouais. Alors, le mot atome veut dire qu'on ne peut pas diviser. Indivisible. Voilà ce que veut dire le mot atome. Les Grecs pensaient que le monde était constitué de particules indivisibles. C'était pas bête, hein? C'était les stoïciens qui pensaient ça. Donc, indivisible. Vous dites, mais attends, on est en Néhémie, pourquoi tu nous parles des atomes, Philippe? Indivisible, ça vous fait penser à rien? Un autre mot qu'on utilise très souvent dans notre société. Nous sommes des individus. Il y a des sociétés qui sont bâties sur le concept de l'individualité. Notre société européenne, dans l'Est de l'Europe, est bâtie sur ce concept. Nous nous voyons comme des individus. Un cercle symbolisant le moi, Dieu est perçu comme un point qui doit intégrer ce cercle. Dans les milieux chrétiens, on entend souvent, il faut accepter le Seigneur. C'est une façon très individualiste de présenter la conversion. Ce n'est pas complètement faux, mais ça dénote bien notre arrière-plan individualiste. Le processus à l'œuvre est l'individualisme et la perception du moi vu comme ce qui détermine la réalité. C'est-à-dire qu'il y a moi au centre et la réalité autour. Et on le vit de façon très terre-à-terre. Vous vivez dans un grand ensemble, vous ne connaissez même pas votre voisin. L'individualisme. Nous sommes, je dirais, dans une société qui encourage fortement l'individualisme. Des individus. Et nous nous plaisons à dire, nous avons une relation personnelle avec Dieu. C'est vrai, mais vous avez remarqué que c'est souvent la partie de l'évangile la plus soulignée dans notre théologie, dans notre façon de présenter l'œuvre du salut, une relation personnelle avec Dieu. Ah, ça nous parle à nous, les Européens. Une relation personnelle avec moi. Dieu a une relation avec moi. C'est pas complètement faux, mais à force de le souligner, on peut tomber dans une vision complètement individualiste de la vie chrétienne. Je rencontrais au marché récemment, un stand au marché, et il y avait une personne qu'on n'avait pas vue depuis des années et des années. C'était une personne qui est chrétienne. J'ai absolument aucun doute sur sa conversion, bien qu'il n'y ait que Dieu qui connaisse les cœurs. Mais cette personne a été déçue par l'Église et elle ne vient plus à l'Église. Alors je lui ai dit, en plus elle est d'arrière-plan maghrébin, je lui ai dit, mais alors ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu et tu as des enfants? Et elle m'a dit, oui, j'ai un enfant de 17 ans et une fille maintenant qui a 14 ans, comme ma dernière et tout ça. Elle me dit, tu sais, mes enfants me posent des questions sur Dieu. Et il y a même mon grand qui parle de baptême. Il se demande s'il ne devrait pas se faire baptiser. Il a fait un camp à Matania et tout ça. J'ai dit, ah, c'est très intéressant. Tu ne voudrais pas venir à l'église pour... Et oui, ça serait bien, surtout pour mon grand de 17 ans. Alors moi, je lui ai dit, ben viens pour tes enfants. Viens pour tes enfants. Elle ne va pas venir pour elle, elle va venir pour ses enfants. C'est déjà un commencement. Mais combien de chrétiens et de chrétiennes pensent pouvoir vivre leur vie seuls, sans connexion avec la communauté chrétienne? Et elle dit, moi je prie, je lis ma Bible. Je savais que c'était trop tôt pour lui dire, l'individualisme t'a vraiment frappé, quoi. Tu as une vision complètement individualiste de la vie chrétienne. Ton processus de sanctification va s'arrêter près de la case maternelle. Tu ne vas pas pouvoir devenir adulte si tu es individualiste. Il faut que tu sois à côté des autres, que tu travailles à la construction, côte à côte avec tes frères et tes sœurs. Je vais lui dire bientôt, priez pour ce moment. Donc c'est vrai que nous sommes dans cette société qui favorise l'individualisme et nous nous voyons comme des atomes. Nous pouvons des fois être complètement seuls dans une foule, des vrais individus non divisibles, hein, comme ces trois atomes qui sont peut-être trois personnes au travail par exemple. On vit ça pendant la semaine, non? Ces moments de grande solitude où pourtant on est dans une espèce de pseudo-convivialité, hein. On s'est même débrouillé de créer des réseaux sociaux tout en restant individualiste. Vous avez remarqué? On est sur Facebook, on est connecté à plein d'amis, mais on est seul devant son ordinateur. L'individualisme. Alors, il y a d'autres façons de voir le monde, heureusement. Le docteur Harold nous parle aussi de cette façon-là. Vous avez entendu parler de cette façon? Certaines sociétés sont bâties, heureusement, sur d'autres schémas. Et là, nous sommes dans la société réseau. Dans la société réseau, vous voyez tous ces fils enchevêtrés. Alors, dans ces sociétés-là, un tissu de fils enchevêtrés. L'un de ces fils est le moi. Tiens, il y a un de ces fils qui est toi. Le moi est vu comme en interconnexion avec les autres. Culture, tradition, histoire. La réalité ultime est perçue en termes de relations réelles. Relations réelles. C'est ce qui fait la vie du moi, c'est les relations que j'entretiens avec les autres, les relations réelles. Plus j'ai de relations réelles et plus je suis un fil connecté, important. La vue réseau est la vue biblique. C'est celle des peuples les plus primitifs. Le lien avec un événement historique comme la mort et la résurrection de Jésus-Christ a un sens dans une telle vue. L'un de ces fils a été le Seigneur. Interconnecté avec tous les autres, c'est celui qui a la relation de grande qualité avec un maximum d'autres fils. Et c'est lui qui tient le réseau chrétien. Nous faisons partie de ce réseau parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Le Dieu de la Bible lui-même se présente comme un Dieu réseau, Père, Fils et Saint-Esprit. On a eu une très intéressante étude sur la Trinité. Vous pensez à la nature même de Dieu. Il montre par lui-même qu'il est une communauté parfaite et il veut que nous soyons une communauté. Voilà le type de société que le Seigneur veut engendrer dans son royaume, une société de type réseau. Quand nous voyons les Israélites qui travaillent à la construction de la muraille, nous avons une image du type réseau. Ils travaillent côte à côte. Alors ma prière, c'est que cette année, nous puissions vivre la vie chrétienne et surtout la démarche de sanctification progressive de façon réseau et pas de façon solo. Solo, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que toi, en tant qu'individu, tu n'es pas important. Bien sûr, tu es important. Tu es même très important puisque le Seigneur t'aime. Mais tu es tellement important qu'il a voulu t'interconnecter avec tous ses enfants. Et c'est ça la société que le Seigneur est en train de construire. C'est une société de type réseau où nous sommes interconnectés les uns aux autres. Cela a commencé à la croix lorsque nous avons reçu le don ineffable du Saint-Esprit qui nous a interconnectés de façon surnaturelle les uns aux autres. Nous devons vivre cette réalité et nous en réjouir. Nous sommes plus que des amis. Nous sommes plus que des connaissances, nous sommes des frères et des sœurs. Et même si je connais peu de toi, je sais que si tu as reçu le Seigneur, nous faisons partie de la même famille. C'est pas beau ça? C'est pas beau ce réseau qui se tisse à Grenoble, qui se tisse dans toute la France, qui se tisse jusqu'à Marseille, jusqu'à Paris? C'est pas beau ce réseau qui se tisse sur la planète entière grâce au Seigneur? et nous en faisons partie, même les fichus individualistes que nous sommes. Le Seigneur est en train de nous guérir de cette maladie ou façon de voir le monde, comme le dirait le docteur Arnold. C'est pas beau ce que le Seigneur est en train de faire, comme il nous construit, comme il change notre mentalité. Il fait des atomes, des fils dans une société qu'il est en train de construire. Et ce jour-là, vous imaginez la louange quand nous allons tous nous retrouver, hein, la construction parfaite dans le royaume de Dieu, qu'on va tous louer le Seigneur. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer ce moment-là? Moi, personnellement, c'est pour ce moment-là que je fais partie d'un groupe de louange. C'est parce que quelque part, je me dis, c'est comme une répétition avant la grande, quoi. Et c'est pour ça qu'on fait le culte. Ce sont des répétitions avant la grande, quand on va tous se retrouver ensemble pour louer le Seigneur. Eh bien, en attendant, il faut travailler côte à côte. Travailler côte à côte. Alors, pour terminer, juste quelques pistes pratiques du côte à côte, ici et maintenant, dans la construction de ce que le Seigneur est en train de faire. Je pense par exemple au domaine de la prière. Un grand chantier, le domaine de la prière, n'est-ce pas? Chantier en construction, le domaine de la prière. Vous avez remarqué que quand le Seigneur enseigne à ses disciples à prier, il dit, quand vous priez, dites, mon Père, ah pardon, c'est notre Père. Et puis la prière est conjuguée à la première personne du pluriel. Vous avez remarqué le nombre de chants qu'on chante le dimanche matin où c'est marqué « je ». Faites un bond en arrière. Regardez les hymnologies qui ont eu lieu en France, notamment il y a de cela 5 siècles, sous la Réforme. C'était pas « je », c'était « nous ». Il y avait une société beaucoup plus réseau qu'aujourd'hui. Alors c'est pas mauvais parce que ça met vraiment l'accent sur l'amour que Dieu a personnellement pour nous. C'est le bon côté. Mais c'est bien aussi d'avoir des chants où on dit « nous ». Ou alors prendre certains couplets et les reconjuguer la deuxième fois avec le « nous » quand ça marche avec les rimes. Ce n'est pas toujours facile. La prière communautaire. Hein. Accorde-nous le pouvoir d'exprimer les dons que tu nous as accordés. Protège-nous. Accorde-nous du travail. Pas accorde-moi, mais accorde-nous du travail en tant que communauté. Qu'il n'y ait personne qui soit au chômage ici. Accorde-nous d'être protégés, accorde-nous de ne pas tomber dans la tentation et de prier cette prière communautaire en pensant aux frères et aux sœurs. Change la prière. Si vous ne l'avez pas fait, essayez. La prière communautaire, même si vous êtes seul dans votre lieu secret, de prier en disant « nous » et en pensant à toute l'Église. C'est autre chose. Vous faites partie d'un réseau et vous le sentez bien au moment où vous priez. Et votre prière a une autre dimension. J'ai pensé aussi peut-être au rapport à la parole de Dieu. Le rapport à la parole de Dieu. Je suis enseignant à l'Institut biblique de Genève, ce qui veut dire que je ne vais certainement pas critiquer d'une manière mauvaise toutes les formations qu'on peut recevoir. Il y a des formations très bonnes qui sont données, il y a des très bons livres chrétiens qu'on peut lire aussi. Je donnerai personnellement et très humblement le conseil de lire au moins un bon livre chrétien par mois. Il y a sur tous les thèmes comme ça, t'imagines au bout de 12 mois, tu as déjà 12 thèmes. Au bout de plusieurs années, tu as un panel de thèmes que tu as pu lire. Choisis des bons auteurs et essaye de faire ça, c'est vraiment très enrichissant. Je pense effectivement aussi qu'on peut faire des formations par Internet. On a été organisé quelque chose comme IBG Online. Si certains d'entre vous suivent ça, c'est pas mal. Il y a d'autres instituts qui le font aussi. Donc, je ne critique absolument pas ces formations. Mais en tant qu'enfant de Dieu, et je parle même en tant qu'enseignant, et je me permettrai même de parler en tant que professeur, les plus grands moments avec la parole de Dieu dans ma vie ont été et sont l'étude biblique communautaire. Vous le croyez? C'est là que Dieu me parle. Parce que je suis avec mes frères et mes sœurs, et il y a une dimension communautaire particulière. C'est pour ça que je suis un petit peu choqué quand certaines personnes disent « je ne vais pas à l'étude biblique parce que je sais déjà ». J'ai parlé une fois à Alfred Kuhn, il me disait qu'il allait à l'étude biblique lui aussi toutes les semaines. Je me suis dit, pourtant, il doit savoir lui aussi alors. Il y a très peu de frères qui peuvent vraiment enseigner quelqu'un comme Alfred Kuhn. Mais on peut le savoir avec sa tête. Mais quand on est avec ses frères et ses sœurs et qu'on entend l'enseignement, quelquefois le Seigneur il fait descendre 30 cm jusqu'au cœur et on le sait d'une autre façon. Et là, on est touché. Une vérité qu'on pensait savoir et qu'on ne savait pas parce qu'on ne la pratiquait pas. Le nombre de fois où le Seigneur m'a interpellé dans l'étude biblique communautaire, côte à côte avec mes frères et mes sœurs en train d'écouter quelqu'un qui enseigne, il se passe quelque chose de particulier dans l'enseignement communautaire. L'enseignement communautaire est une activité fondatrice de l'Église depuis le commencement et jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui édifie l'Église et ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose de divin dans l'enseignement communautaire. Vous l'avez noté ? Je pense aussi au niveau de la louange. La louange, vous la voyez comment ? Je parle aux musiciens, au groupe de louange et je parle à toute l'Église. Voyez la louange comment ? Comme un réseau ou comme des atomes qui louent le Seigneur ? Quand on loue le Seigneur, on ne mêle pas nos voix ensemble ? Ce n'est pas une belle image du réseau, ça ? Ta voix se mêle avec celle des autres. Et je pense que dans le royaume des cieux, il va y avoir tous ces peuples, toutes ces langues qui vont chanter ensemble. Et je me dis, qu'est-ce que ça va faire ? Je suis sûr que ça va faire une harmonie dont on n'a même pas idée. Mais c'est un petit peu ce qu'on vit le dimanche matin. Quand on loue le Seigneur ensemble, c'est quelque chose de particulier, la louange communautaire. Je peux le louer, le Seigneur, au volant de ma voiture quand je vais au travail, tu vois. Les gens, ils pensent peut-être que je parle avec mon main libre. Surtout maintenant qu'il y a des amendes si tu téléphones, je vais m'en acheter un. Mais non, en fait, je parle au Seigneur, on loue le Seigneur, c'est bien de louer le Seigneur comme ça. Mais c'est mieux de louer le Seigneur avec ses frères et ses sœurs en réseau. Quand je loue le Seigneur avec mes frères et mes sœurs à l'église le matin, c'est pas pareil. Et curieusement, le Seigneur peut me construire pendant un moment de louange. J'ai même connu une personne qui s'est convertie pendant un moment de louange. Une chrétienne formidable. Elle s'est convertie pendant un chant. Vous vous rendez compte un peu ? Le Seigneur lui a parlé pendant un chant, elle lisait, et puis elle s'est convertie. Qu'est-ce qu'on peut vivre pendant ces moments de louange communautaire ? J'ai pensé aussi, peut-être, au travail, au ministère. On a tous un ministère. Et notre travail séculier fait partie de notre ministère. Le travail que nous devons faire pour le Seigneur, même dans cette société, c'est un travail de construction ou de reconstruction. Mais j'ai pensé que ce travail, il ne faut pas le faire seul. Il faut le faire en interconnexion les uns avec les autres. C'est tellement important de travailler ensemble à la construction, si je peux dire, du royaume de Dieu. Nous attendons le roi. Nous construisons en vue de la venue du roi. Le roi revient et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une philosophie, c'est un événement historique. Le roi va faire son entrée dans ce monde et nous construisons, mais nous construisons ensemble. Nous construisons ensemble dans l'Église. Et je pense que quand on fait partie d'une famille comme la famille KF, c'est bien aussi de savoir qu'on a des églises sœurs et proches de ce que nous croyons dans la France entière. Ce réseau qui se construit. Je pense peut-être à des réseaux encore plus vastes. À Marseille, on a essayé de se mettre ensemble pour faire des événements d'évangélisation. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se suffire à nous-mêmes. Que le Seigneur, dans sa souveraineté, ordonne que nous travaillons côte à côte. C'est pas facile. Mais qu'est-ce que c'est beau quand on réussit à le faire. Qu'est-ce que c'est puissant. Et quel témoignage pour une ville quand les chrétiens travaillent côte à côte. Mais là, il faut des artisans de paix, des gens et des hommes sages qui peuvent mener les uns et les autres à le faire. Je pense à des réseaux internationaux. C'est tellement grand, ça me fait un peu tourner la tête. La vision du côte à côte, vous pouvez l'étendre à toute la planète Terre. Pensez à la mission. Pensez à ce que nous avons à apporter dans le monde. Peut-être vous soutenez des missionnaires au loin. Eh bien, ces missionnaires que vous soutenez au loin font partie de votre réseau. Vous avez quelque part tissé quelque chose avec des pays lointains à des milliers de kilomètres de là. Vous êtes représenté dans une autre civilisation, dans une autre culture. C'est ça aussi le réseau chrétien. La mission nous enseigne le réseau d'une façon magistrale. Alors voilà, c'était ma manière de vous présenter mes vœux en 2012. Au travers de ce moment de louange, dont la clé, il me semble, est dans ce chapitre 3 de Néhémie, ce côte à côte, ils ont construit la muraille côte à côte. Que le Seigneur nous libère de l'individualisme, de cette vision atome du monde. Qu'il nous aide à être ces fils enchevêtrés les uns avec les autres, à faire partie d'un réseau. Qu'il nous aide à voir notre vie comme une vie qui est de plus en plus riche au fur et à mesure qu'elle est interconnectée avec des relations de qualité. Que nous ayons comme exemple de réseau suprême le Seigneur lui-même qui a établi le plus grand réseau de relations de grande qualité avec un vaste nombre d'hommes et de femmes. Quel exemple ! Et dire que nous en faisons partie. Spirituellement, le Seigneur attend de certains d'entre nous simplement une chose, que nous collaborions avec ce que l'Esprit nous indique de notre position actuelle au sein de l'immense peuple de Dieu. On ne peut pas vivre le principe, le processus de sanctification progressive tout seul. Car nous avons rendez-vous avec le roi. Et nous avons rendez-vous ensemble avec le roi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais prier. Seigneur, nous te remercions pour ce magnifique cadeau que tu nous as fait à la conversion. Nous te remercions, Seigneur, pour cette vie de construction qui va, des fois avec des difficultés, comme sur un chantier, mais qui va toujours croissant, parce que c'est toi, Seigneur, qui es le maître d'œuvre. Seigneur, nous te remercions pour la vision, la perspective, l'ultime vision de ce chantier que tu as inauguré en nous et qui est la venue du roi, la deuxième venue du Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour la vision du royaume de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour la vision de cette société réseau immense qui ne peut pas être dénombrée. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui es le maître de ce réseau et tu t'es impliqué toi-même au sein de ce réseau. Quel honneur, Seigneur, pour nous. Seigneur, aide-nous cette année 2012 à développer cette vision de réseau. Aide-nous, Seigneur, à développer cette vision de réseau dans la prière, dans l'étude de la parole communautaire. Seigneur, aide-nous dans l'expression de notre ministère, d'être au service les uns des autres, tel que ton Saint-Esprit nous l'indique. Les dons que nous avons reçus sont pour le service et pour se mettre au service des ordres. Seigneur, aide-nous dans notre travail séculier. Aide-nous, Seigneur, dans notre vision de la vie chrétienne. Aide-nous, Seigneur, à avoir une vision d'interconnexion dans la ville, dans la région, peut-être dans la nation, et si tu le veux, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, permets-nous de vivre ce réseau et permets-nous, Seigneur, de le vivre avec encore plus d'intensité en 2012. Merci encore, Seigneur, pour le livre de Néhémie. Merci pour les précieuses leçons qu'il nous enseigne et aide-nous, Seigneur, à pouvoir retourner dans la lecture de ce livre pour encore glaner d'autres leçons de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour votre invitation.